Le document que vous allez entendre est constitué d'extraits de l'émission Voyance Graffiti du 14 mars 2006. Certaines parties ont été coupées au montage afin d'améliorer la fluidité.
Après vous avoir fait revisiter le passé avec l'émission 20 ans déjà, émission dans laquelle nous revivions les années 80, eh bien je vous propose aujourd'hui d'explorer le temps, de vous projeter dans le futur, votre futur, mais aussi de revivre, peut-être pour certains d'entre vous, une période, un moment du passé, votre passé, mais surtout de vivre et de comprendre le présent, votre présent. Et pour ce faire, il me fallait un voyant tarologue réputé, quelqu'un dont c'est le métier, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de confiance, et c'est pourquoi j'ai demandé les services d'un vrai professionnel et pas n'importe lequel. Il nous vient de Reims, il est distingué par le label officiel de la voyance, il est même recommandé par le guide de la voyance et il a tout naturellement répondu présent à notre invitation. Il s'agit de Laurent Edouard. Alors on va le dire tout de suite à nos amis auditeurs et auditrices, ce soir vous ne ferez pas de consultation gratuite en direct par téléphone, hein. Ce soir c'est plus une émission d'information sur la voyance, la tarologie et puis c'est également pour vous connaître un petit peu mieux, qui vous êtes, comment êtes-vous arrivé à la voyance et à la tarologie? Est-ce que c'est un don? Voilà, on va répondre à toutes ces questions là ce soir. Nous sommes bien d'accord, Laurent?
Pas de problème.
Voilà, une émission d'information pour les auditeurs et les auditrices de Radio Graffitis. Alors Laurent, nous allons être ensemble en direct pendant une heure et je vais donc vous poser quelques petites questions, des questions qui vous concernent bien évidemment, aussi bien vous, alors pas sur votre vie privée, mais sur votre vie en tant que praticien, voyant, tarologue, et puis également des questions sur la voyance et la tarologie. Et ma première question, eh bien, c'est justement, qu'est-ce que un voyant tarologue?
Alors, déjà, je distinguerais volontiers le voyant du tarologue. C'est-à-dire que, pour moi, voyant est un terme plutôt commercial. C'est-à-dire que c'est une question de lexicologie, de sémantique. Je dirais que le tarologue utilise un support qui est le tarot. En ce qui me concerne, il s'agit du tarot de Marseille. Le voyant, c'est un terme un petit peu galvaudé, je dirais à connotation commerciale, qui englobe en fait une faculté qui est méconnue d'ailleurs du grand public. Peu de gens savent finalement ce qu'est la voyance, comment ça fonctionne, comment on y vient, ce qu'on peut en attendre. Et bon, c'est un peu l'objet de cette émission, justement, de démystifier et d'expliquer les nuances entre le voyant et le tarologue. Le tarologue est plutôt un technicien qui utilise bien entendu son intuition. Et je dirais le tarot de Marseille joue un rôle de support.
C'est un support, oui.
Voilà, un rôle de support. Et le tarot de Marseille, c'est un livre de connaissances. C'est un livre de connaissances hermétiques, philosophiques, et qui nous vient du Moyen-Âge.
D'accord. Alors vous, c'est votre métier. Vous êtes, alors je n'ose pas dire voyant tarologue, voyant tarologue ou plutôt voyant, plutôt tarologue
Alors, je dirais plutôt tarologue. Il fut une époque où j'ai renoncé à la voyance publiquement, et donc un papier a fait l'objet de, je dirais, ce renoncement à la voyance, puisque quelque part englober ce terme de voyant, c'est devoir assumer une aura qui n'est pas forcément très lumineuse.
D'accord. Donc c'est un métier, on est bien d'accord.
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut en vivre de ce métier? Est-ce que on peut très bien vivre normalement, voire même peut-être plus que normalement, sa vie en étant voyant ou tarologue?
C'est difficile. On peut en vivre, c'est difficile. Je dirais que la dérive guette. Puisque finalement, pour bien faire ce métier, il n'est pas possible de recevoir un grand nombre de personnes par jour. Je ne crois pas qu'on puisse enchaîner les consultations les unes derrière les autres. Ça ne me paraît pas très crédible. Oui. C'est malheureusement ce qui se fait souvent. Et ceci d'ailleurs s'explique par le fait que nous sommes fortement taxés en tant que profession libérale en France, que nous croulons sous les charges et qu'évidemment, pour avoir un niveau de vie décent, nous sommes obligés de multiplier les consultations.
Est-ce que vous êtes reconnu par l'État, c'est-à-dire est-ce que ce métier est reconnu
Je dirais que nous sommes reconnus au même titre que les prostituées. D'ailleurs, il se trouve que l'URSSAF nous met dans la même case. Autre service personnel, ça en dit long.
D'accord. Ah, effectivement, oui, j'imaginais pas ça comme ça. pourquoi et comment exerce-t-on cette discipline? Comment en vient-on à exercer la discipline de voyant ou de tarologue?
Alors, je crois qu'on ne choisit pas vraiment et que c'est plutôt la discipline qui vous choisit. Quelque part, on vient, c'est un chemin de vie. On découvre à un moment donné de son existence, en règle générale pendant l'enfance, qu'on a quelque chose de différent. Ce quelque chose de différent, c'est une hypersensibilité, une grande émotivité, mais aussi une grande intuition qui fait que très souvent on anticipe les choses plus facilement, je dirais, que le commun des mortels. Et cette intuition vous rattrape et prend un temps, occupe de plus en plus de place dans votre existence. Et en règle générale, ça débouche sur une recherche personnelle qui peut parfois conduire à l'exercice de ce métier.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un don ?
Alors, je me méfie là aussi beaucoup de la question du don. Dire j'ai un don, ça veut dire moi je l'ai, pas toi. Et donc du coup s'instaure un rapport de force, un rapport de pouvoir qui est précisément une des relations, la relation de pouvoir, c'est précisément ce que j'essaye d'éviter absolument dans mes consultations. Puisque sinon là il y a un risque énorme, d'ordinaire nous recevons des gens qui sont au minimum dans le doute et très régulièrement, très souvent dans une grande détresse. Et si évidemment vous leur imposez un pouvoir ou un don, il y a un déséquilibre qui se crée dans la relation, et du coup la personne boit vos paroles, et vous ne mesurez plus vraiment à quel point vos mots peuvent induire des maux chez cette personne-là. D'accord. Il faut être extrêmement vigilant.
Et vous personnellement, dans votre cas, vers quel âge vous avez pris conscience que vous aviez cette intuition, cette interprétation?
Je dirais au tout début de l'adolescence, vers les 12-13 ans. Et dès l'âge de 14 ans, j'ai commencé d'ailleurs à m'intéresser aux arts divinatoires, au spiritisme, au point d'ailleurs de mettre en danger ma scolarité, puisque mes livres de chevet n'étaient pas, bien entendu, les livres qui auraient dû être là. Je dirais que dès l'âge de 14 ans, j'étais déjà très immergé dans ce chemin.
Et comment vous avez réagi lorsque vous êtes aperçu que vous étiez très très attiré, on va dire, par ce monde mystérieux qui reste mystérieux pour nous? Est-ce qu'on se pose des questions? Est-ce qu'on cherche à en savoir plus? Est-ce que c'est héréditaire, par exemple?
Oui, alors l'hérédité, ça aussi c'est un truc commercial, hein. Ma mère l'avait, je l'ai, et donc forcément je suis bon. Donc en l'occurrence l'hérédité, là c'est encore un des stéréotypes et un des, je dirais, quelque chose dont je me méfie. Pour autant, est-ce que l'intuition c'est une qualité héréditaire? Je ne sais pas. Il se trouve que ma mère en effet est une personne extrêmement intuitive, donc ça je ne peux pas le nier. Ceci dit, en aucune manière elle ne m'a influencé dans cette voie, puisqu'elle n'a strictement rien à voir avec ce métier, qu'elle a aucune connaissance particulière. Je n'ai pu que constater qu'elle avait une grande intuition.
D'accord. Alors généralement vous consultez soit par téléphone, soit directement en rendez-vous dans votre cabinet. Est-ce que vous voyez tout type de public? Est-ce qu'il y a un public, enfin un public, oui, on va dire un public, je voudrais pas employer le terme client, enfin je sais pas, comment on qualifie les gens qui viennent vous voir? Est-ce que ce sont des clients? Est-ce que c'est un public?
Alors, je les appelle mes visiteurs. Ceci justement pour régler la question du terme. Ce sont des clients puisqu'ils me paient, donc d'accord, il y a bien une relation commerciale. Quelque part, ce sont mes patients. Mes patients, puisque dans ma démarche, il y a une notion thérapeutique, en tout cas on peut dire à connotation ou à visée thérapeutique, donc quelque part ce sont des patients, et pour éviter des soucis avec un ordre quelconque, j'ai décidé de les appeler mes visiteurs. Et ils appartiennent, pour répondre plus précisément à votre question, à toutes les classes sociales.
Oui.
Nous voyons toutes sortes de personnes, très clairement, avec une majorité quand même de femmes, la population masculine tend pour autant à consulter quand même de plus en plus. Il y a 10 ou 15 ans en arrière, les hommes consultaient très peu, aujourd'hui ils consultent de plus en plus souvent. Et il y a quelques études ont démontré quand même les gros noyaux de personnes qui consultaient, par exemple, ça peut surprendre, le personnel paramédical et médical, et également, y compris, je dirais, même les médecins. Les médecins consultent, les hommes d'affaires consultent.
Ceux qui prennent les grandes décisions consultent également, je suppose.
Oui, les politiques consultent, oui. les chefs d'entreprise, effectivement. Alors après, je dirais qu'en fonction de la couleur, de la coloration qu'on apporte à la consultation, on génère une certaine clientèle. Pour ma part, ma clientèle est plutôt constituée de gens qui n'appartiennent pas nécessairement au milieu des affaires ou de la politique, mais plutôt des gens qui sont en recherche personnelle ou qui s'interroge sur un devenir affectif.
Il est déjà arrivé qu'on vous appelle, par exemple, pour faire un choix entre deux candidats suite à un entretien d'embauche et qu'on vous demande un petit peu, est-ce qu'il vaut mieux que j'embauche telle ou telle personne ?
Oui,
Oui, ça vous
est arrivé. C'est arrivé, c'est quelque chose qui m'est pas très à l'aise.
Oui, parce que j'imagine que, enfin, on va peut-être pas parler de pression, mais vous devez quand même vous dire que vous avez peut-être entre vos mains une décision.
Oui. Alors, il n'y a pas de pression dans le sens où c'est moi le patron. Et je réponds seulement aux questions
qui vous sont posées.
Qui me sont posées. Enfin, non, je réponds seulement aux questions auxquelles je désire répondre.
Oui.
C'est-à-dire que me poser une question, c'est une chose, obtenir une réponse, c'en est une autre. Il y a des questions auxquelles, bien entendu, je ne réponds jamais.
Alors, lesquelles? Quelle transition?
Alors, lesquelles
Par exemple, on va prendre un exemple. Je vous appelle pour vous dire, voilà, j'ai mon petit ami qui vient de partir avec une autre, avec une autre dame. Est-ce qu'il va revenir?
Alors, à cette question-là, je répondrai à ma manière.
D'accord.
Je ne répondrai pas, par contre, à la question du type mon compagnon ou ma compagne est-il fidèle? Je répondrai pas ça, à ça directement.
Bien sûr.
Il y a une manière, je pense, il faut faire très attention. Et quand les gens me posent cette question, je leur sors toujours la carte d'un très bon détective privé qui, à mon avis, mieux à même de répondre à la question, preuve à l'appui.
D'accord. Il y a d'autres types de questions auxquelles vous ne répondez pas?
Oui.
Sur la maladie, peut-être, je ne sais pas.
Oui, quand est-ce que la grand-mère va mourir? On attend l'héritage et visiblement, elle tarde à passer l'arme à gauche. Je ne répondrai pas à une question comme ça.
D'accord. Mon cher Laurent, imaginons que demain j'ai envie de consulter. Est-ce que vous pouvez me dire comment on peut un petit peu, comment peut-on choisir son praticien? Est-ce qu'il y a une formule magique qui permet de tomber sur la bonne personne et du premier coup? Parce que je suppose qu'il y a énormément de charlatans dans cette profession.
Vous supposez bien, il y en a énormément. Alors, c'est difficile. Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il est difficile de conseiller un praticien à quelqu'un. Autant vous pouvez volontiers conseiller un bon pâtissier, il est plus délicat de conseiller un bon voyant. Déjà parce que, qu'est-ce que ça veut dire être un bon voyant? Alors ça, c'est une question très délicate. Je dirais que la particularité de ce métier, qui pour moi n'est pas un métier, mais plutôt une fonction, c'est d'éclairer l'autre. C'est de se mettre en contact avec le monde intérieur du consultant. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire sur commande. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Une prestation sera dite excellente pour vous et votre meilleur ami trouvera la prestation très moyenne. De même, vous pourriez trouver une prestation très très bonne et revenir voir le même praticien un an après et le trouver très moyen. Donc déjà, il y a un niveau qui est très fluctuant. Maintenant, qu'est-ce qu'un bon voyant? Qu'est-ce qu'un bon praticien des arts divinatoires? C'est avant tout quelqu'un d'honnête. Alors là, nous avons un certain nombre d'outils pour faire un choix. De même qu'il existe des guides pour choisir des restaurants, il existe des guides pour choisir des praticiens de la voyance. Attention toutefois de ne pas tomber dans le piège des guides auto-édités par des professionnels eux-mêmes, qui se font donc à travers ça leur propre publicité.
Pub, oui.
Il existe, je dirais, l'organisme qui aujourd'hui sert quelque part de référence, en tout cas sur internet, c'est évidemment l'officiel de la voyance.
On y reviendra tout à l'heure, sur l'officiel de la voyance.
Il existe également un guide qui s'appelle le guide de la voyance sur internet, qui a fait ses preuves et qui est crédible, en tout cas c'est ce qu'en disent les consommateurs.
D'accord. Est-ce que la voyance par téléphone, comme nous allons la faire d'ici 15 jours, est aussi précise qu'une consultation en cabinet?
Elle est aussi précise, mais elle est tout de même différente. Il y a des avantages et des inconvénients selon les formules et les manières de faire. Je dirais que le téléphone peut apporter un certain confort au praticien qui n'est pas influencé par ce qu'il voit physiquement.
Oui.
Et donc, c'est peut-être également la possibilité pour lui d'aller plus loin sans tomber dans des a priori personnels qui pourraient être de l'ordre du jugement. C'est toujours très difficile de ne pas porter de jugement. Donc par téléphone, évidemment, il y a une neutralité qui est plus grande. Maintenant, la relation est peut-être moins intense sur le plan humain. Il arrive que les gens soient particulièrement affaiblis, choqués, mal en point lorsqu'ils viennent nous voir, et il est toujours appréciable de les avoir face à soi dans un cabinet, puisque là, je dirais que la relation d'aide sera de toute façon beaucoup plus efficace que par téléphone.
D'accord. Est-ce que vous vous sentez quelque part obligé, par un résultat d'un résultat, obligé de donner une réponse systématiquement à chaque question, à chaque consultation? Ou est-ce qu'il vous arrive des fois de dire, bah, écoutez, je suis désolé, mais je ne ressens rien, j'ai aucune intuition, merci, au revoir.
Oui, ça arrive régulièrement. Je dirais que dans 7 cas sur 10, les réponses sont OK. Et donc, dans 3 cas sur 10, il n'y a pas de réponse.
Et comment on peut l'expliquer ça? Ça vient de la personne? Ça vient d'une question trop précise? Ça vient de quoi?
J'ai pas d'explication. On peut échafauder quelques hypothèses. Il arrive, ce qu'on peut dire, c'est que certaines personnes nous paraissent tout simplement antipathiques. Savez-vous expliquer, Philippe, l'antipathie et la sympathie? C'est difficile.
Oui, sympathie, j'en ai pour vous.
Non, voilà, donc c'est du même ordre en fait. Hein. Se relier au consultant, c'est quelque part éprouver, si ce n'est de la sympathie, au moins de l'empathie. C'est-à-dire que...
Se mettre à la place de la personne.
Voilà. Les soufis ont une expression pour cela. Ils parlent de se mettre sur le paillasson de l'autre. C'est vraiment de ça dont il s'agit.
D'accord. Alors, on va en arriver à la tarologie. Oui. Vous utilisez donc ce support, le tarot de Marseille. Est-ce qu'on revient sur le terme qu'est-ce que la tarologie, ou est-ce qu'on l'a assez bien expliqué en début d'émission?
On peut rappeler simplement que, historiquement parlant, le tarot de Marseille, donc c'est un jeu de cartes qui apparaît au Moyen-Âge. Le tarot de Marseille n'est pas un support de divination. Il est devenu un support de divination.
D'accord.
Parce qu'il a été détourné par des mouvements ésotériques et occultistes. À l'origine, le tarot de Marseille, c'est un jeu pour jouer dans les bistrots, jeu d'argent, qui véhicule une certaine connaissance, puisqu'il est fait, il est mis en image par des gens qui sont les mêmes que ceux qui ont réalisé nos vitraux de cathédrale. Donc il est porteur d'une connaissance et d'un message sur le devenir de l'humanité, tant au plan individuel que collectif. Ça n'est sûrement pas un support de divination, moins un support de voyance.
D'accord. Alors, comment ça se passe lorsque quelqu'un vous appelle, lorsque quelqu'un vient vous voir en cabinet? Donc vous tirez des cartes du tarot de Marseille,
oui,
et vous en faites une interprétation. Comment ça se passe au juste? Est-ce que, par exemple, un symbole qui va ressortir aura toujours la même définition, on va dire?
Non. Un symbole n'aura pas toujours la même définition. Là, vous me posez des questions difficiles, j'avoue. Que, mais bon, c'est pour ça que je suis venu. Je dirais que chaque tarologue, finalement, chaque praticien, établit une grille de lecture de ces images. Il établit sa propre grille de lecture, ou alors il avale des bouquins écrits par des auteurs, et il s'approprie la grille de lecture de quelqu'un d'autre, ce qui est, à mon avis, déjà moins heureux. Cette grille de lecture, elle est faite en fonction de l'échelle personnelle de chacun.
D'accord.
C'est-à-dire que ce qu'une image va évoquer pour moi, ce ne sera bien entendu pas la même chose pour vous. Ce qui compte, c'est ce que l'image évoque. Au-delà de son message, je dirais, initial et du message dont elle est porteuse.
Donc il n'y a pas la bonne carte sur laquelle il faut absolument tomber, ou la carte qu'il faut absolument éviter?
Non. D'ailleurs, c'est une erreur de penser qu'il y a des bonnes cartes et
des mauvaises cartes.
Toutes les cartes ont une face lumineuse et une face ombre.
D'accord. Des fois, on entend parler de flash. Un flash, j'ai eu un flash comme ça. Bon, déjà, est-ce que ça existe? Et qu'est-ce que c'est que ce flash?
Alors, ça aussi, ça fait partie, je dirais, des techniques de vente. Hein. Vous voyez très souvent des publicités flash précises, datées. Bon, voilà, ça, c'est déjà la signature du charlatanisme. Pourquoi? Parce qu'un flash n'est ni précis ni daté. Jamais.
D'accord.
Le flash, qu'est-ce que c'est? C'est une forte intuition qui peut être intérieure, visuelle, auditive. Très souvent, quand on pense flash, on pense à une image. En fait, ça peut être une odeur, ça peut être un son, ça peut être une voix. Le flash a ceci de particulier qu'il est spontané, donc impossible à provoquer. Du coup, vous comprenez pourquoi le praticien qui revendique avoir des flashs précis et datés sur rendez-vous 8 fois par jour...
Oui, d'accord. Justement, daté, est-ce que c'est un problème? Je crois savoir que pour ceux qui pratiquent ce métier, c'est un problème de pouvoir donner une date bien précise pour un événement bien précis.
Oui, oui, absolument. Le temps en voyant, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à saisir. Déjà, dans le meilleur des cas, on distingue le passé du présent et du futur.
Mmh.
Maintenant, quand il s'agit de dater... il y a des techniques divinatoires qui sont plus performantes que d'autres. Et là, je dirais que, par exemple, l'astrologie est un bon outil pour dater, probablement le plus précis. Le tarot, ou ce qu'on n'a pas appelé la voyance traditionnelle, on est évidemment très handicapé lorsqu'il s'agit de dater. Nous avons quelques petites techniques qui nous permettent de resserrer un petit peu l'étau du temps et d'apprécier le moment où l'événement est censé se produire. Ça reste quand même très aléatoire.
D'accord. L'avenir, notre avenir, est-il écrit ?
Alors là, chacun y va de sa croyance. Une des grandes règles de déontologie, enfin de mes règles de déontologie, c'est de n'imposer aucune de mes croyances. Maintenant, puisque vous me posez la question, je vous dirai oui et non. Alors, il y a un avenir qui est écrit, peut-être, c'est la raison même de votre incarnation. Pourquoi vous vous êtes incarné, en gros, je dirais, le sens de cette vie terrestre. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ? Ça, probablement que cette trajectoire-là, cette dynamique-là, est écrite. Maintenant, tout ce que vous ferez au quotidien dans votre existence, je pense que ça n'est pas écrit, et c'est justement ce qui est intéressant, c'est-à-dire que si tout était écrit, ça voudrait dire que vous consultez votre voyant, il vous dit ce qu'il va vous arriver, et impossible de faire autrement. Donc vous êtes condamné à subir. Je dirais, la voyance enchaîne, et le tarot libère. C'est-à-dire que justement, l'approche tarologique va contourner ce déterminisme et faire en sorte de redonner à la personne qui consulte les moyens de reprendre les rênes de sa destinée. Je ne crois pas que l'avenir soit écrit. Si vous avez un travail et que vous faites tout pour être licencié, vous le serez. Si vous êtes heureux en couple, mais que vous avez également deux ou trois partenaires à l'insu de votre épouse ou de votre compagne, vous prenez des risques, ça va de soi.
Oui, bien sûr. Ouais. On en parlait tout à l'heure, mais on a très souvent tendance à faire un amalgame entre les voyants, les gourous, les médiums, la parapsychologie, les envoûteurs. Comment vous gérez cela ? Lorsque vous vous présentez à quelqu'un, lorsque vous dites « je suis voyant tarologue », est-ce qu'on n'a pas cette impression justement de est-ce qu'on ressent pas une crainte quelque part en se disant voilà, je vais dire que je suis voyant tarologue et tout de suite on va penser à je suis gourou, je suis envoûteur, je suis sorcier, je suis magicien.
Vous avez tout à fait raison, c'est pour ça que j'ai renoncé à la voyance. Je vous rappelle que je suis pas voyant tarologue, mais que je suis tarologue.
Autant pour moi.
Alors, tarologue, parce qu'il faut bien donner un nom à quelque chose. Maintenant, plus simplement, j'ai l'habitude de dire que je suis un intuitif. Du coup, je crois que les choses sont beaucoup plus naturelles. L'intuition, c'est une disposition humaine qui n'est pas d'ailleurs réservée aux femmes, même si elles font souvent preuve d'une plus grande intuition que les hommes. Donc pour ma part, je dirais plutôt que je suis un intuitif. Je suis là pour éclairer les gens, surtout pas pour leur imposer un futur quelconque. La relation que j'établis avec l'autre, je le répète, est une relation à visée thérapeutique. J'essaie d'apporter du bien-être. Soyons clairs, au-delà de décrire un futur, mon but est surtout d'amener des éléments, des outils à la personne qui me consulte pour déjà mieux voir son présent.
Ça dure combien de temps une prestation à peu près ?
Alors, en ce qui me concerne, les consultations durent 1h30 environ.
1h30. Mon cher Laurent, avant de devenir le voyant, le tarologue que vous êtes aujourd'hui, il faut que je refasse toutes mes questions et toutes mes fiches du coup. Vous vous prédestiniez à une carrière dans la médecine, c'est ça ?
Oui, effectivement. J'ai toujours eu le souci et le désir de soigner. Quelque part, je me destinais à soigner le corps. Et finalement, je soigne l'âme.
Est-ce que des fois on vient vous voir, par exemple, en vous demandant, je veux dire, des nouvelles entre guillemets. Enfin, est-ce que vous avez des intuitions ? Est-ce que vous voyez certaines choses sur les personnes décédées ?
Non.
Ce qui suit est la réponse de Laurent Edouard à la question d'un auditeur demandant s'il est possible d'utiliser le tarot de Marseille pour communiquer avec les morts.
Ce à quoi vous faites référence, c'est plutôt la fonction de médium.
Ah oui.
Donc qui n'est pas du tout le même métier, j'allais dire la même fonction que voyant ou tarologue. Ça aussi c'est un terme qui est souvent employé à tort et à travers. Dans son sens original, le médium, c'est précisément quelqu'un qui est capable d'entrer en communication avec les entités. Peu de gens sont de véritables médiums. Ce n'est pas mon cas, donc je ne pourrais pas vous permettre d'accéder à ce type de communication. J'ai pratiqué ça à une époque quand j'étais adolescent. C'est d'ailleurs très dangereux, ça a signalé au passage que ça n'est pas sans risque. J'ai beaucoup étudié l'œuvre d'Alan Kardec, qui est le fondateur du spiritisme, qui est d'ailleurs enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris.
Oui.
Sa tombe fait l'objet de cultes et de d'agissements assez curieux à observer quotidiennement. Donc je ne pourrais pas. Si vous éprouvez par contre le besoin ou l'envie ou le désir d'entrer en communication avec votre maman, je pourrais vous donner hors antenne les références de personnes sérieuses.
Mon cher Laurent, votre maman était elle-même une très grande médium.
Oui. Alors là, justement, pas nécessairement au sens original du mot. Hein.
Oui.
Comme je viens de le dire, donc le médium, c'est une personne qui est capable d'entrer en communication avec les entités d'âmes défuntes. Ma mère était donc plus précisément une très grande intuitive. C'est quelqu'un qui a la capacité de prévoir des événements de manière tout à fait inattendue. Je crois que ça lui a servi personnellement quotidiennement, sans d'ailleurs qu'elle s'en rende vraiment compte. C'est un mode de fonctionnement assez surprenant et petit garçon, j'étais immergé en fait dans cet univers.
Et est-ce que vous pensez que ça a joué justement sur aujourd'hui le fait que vous soyez tarologue? Est-ce que vous pensez que
oui.
Le fait que votre maman était médium...
Oui, je crois que ça a joué puisqu'elle m'a ouvert les portes d'un accès à la connaissance. Inévitablement, ça n'a pu que m'aider à m'engager dans une voie. C'est une personne qui est très tournée vers l'autre, extrêmement altruiste, à l'écoute des autres. Et je pense que quelque part, oui, elle a contribué à mon parcours.
D'accord. Alors, on va revenir un petit peu sur votre site internet www.laurent-voyance.com et sur ce site, vous avez déclaré, je vous cite, « Au-delà du tirage des tarots, ce qui importe, c'est l'impact réel de la consultation dans votre vie, votre en majuscule. Qu'entendez-vous par cela, cher Laurent ?»
Ce que j'entends par ça, c'est que la voyance, si on se limite à une prestation de voyance, ça sert à rien. À part... pour moi, une consultation de voyance, c'est pas très utile dans le sens où ça se limite à décrire un passé que les gens connaissent, un présent qu'ils connaissent aussi puisqu'ils sont en train de le vivre. Alors on peut aller un petit peu plus loin que les premières couches de ce qui est perceptible. Et en ce qui concerne l'avenir, raconter l'avenir à quelqu'un, c'est pas très utile. C'est d'ailleurs même l'asservir. Puisque à partir du moment où vous dites à quelqu'un ce qu'il va lui arriver, très souvent, même si la personne s'en défend, elle est capable de suivre ce que vous allez lui proposer comme avenir, pour ne pas dire lui imposer comme avenir. Et donc là, c'était pour moi un terrain très glissant. L'impact réel de la consultation dans votre vie, c'est pour moi justement redonner à la personne le contrôle de son existence, lui redonner de l'indépendance, une liberté d'action, lui faire prendre conscience qu'elle n'est pas victime des événements, qu'elle peut se soustraire, qu'elle peut agir, qu'elle peut mettre en œuvre.
Est-ce qu'il n'y a pas cette notion de comprendre avant tout, comprendre son passé? C'est ce que je disais hein, en introduction de l'émission, essayer de vous faire, enfin de comprendre son passé ou son présent.
Oui, en fait, je dirais que l'objet même de ma consultation, c'est de me mettre en reliance avec la personne qui vient me voir. Donc me mettre, comme je l'ai cité tout à l'heure, les soufis parlent de se mettre sur le paillasson de l'autre, c'est-à-dire se souvenir de ce que moi j'ai vécu quand j'étais dans la même situation et comment je m'en suis moi sorti, parce que finalement toutes les vies humaines se ressemblent.
D'accord. Toujours sur votre site internet, Laurent, vous avez déclaré « Ni mage, ni gourou, ni maître, sans aucun pouvoir extraordinaire, je suis un intuitif. Lire le tarot, c'est l'art d'imaginer juste. » Est-ce que l'intuition et l'imagination suffisent pour devenir tarologue ?
Elles ne suffisent pas, non. Il faut autre chose, il faut beaucoup aimer les gens. Je pense que c'est d'ailleurs la qualité, ou la disposition plus exactement, la plus importante. Aimer l'autre. À partir de là, lorsque vous aimez l'autre, et que vous avez une formation pour aider l'autre, donc une technique quelconque de relation d'aide, une base de psychologie, peu importe la technique, vous êtes en mesure de devenir tarologue.
D'accord. Alors tout à l'heure, on parlait de l'officiel de la voyance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'officiel de la voyance ?
À l'origine, l'officiel de la voyance est un journal papier qui n'a pas survécu et qui s'est transformé en site internet. La volonté de Fabrice Luquet, qui a créé ce site internet, est de donner du crédit aux arts divinatoires et de démontrer leur utilité, de démontrer l'utilité et l'intérêt de la prestation divinatoire. Je pense qu'il a pas mal réussi son défi, puisqu'il a réussi à mettre en place un système de consultation test en double aveugle qui donne justement du crédit à cette pratique.
Alors justement, sur ce site internet de l'Office de la Voyance, on peut y lire, en ce qui vous concerne, vous personnellement, Laurent Edouard, plus de 70 comptes rendus de consultation. Est-ce qu'il y a est-ce que vous êtes jugé, est-ce que vous êtes noté, est-ce que...
Évalué, puisque l'objet même des comptes rendus de consultation est de donner la parole à mes clients.
Est-ce qu'il y a une sélection au niveau de ces comptes rendus ? Est-ce qu'on ne met que des bonnes appréciations ?
Oui, absolument. C'est d'ailleurs quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Ne sont publiés que les comptes rendus positifs.
D'accord. Moi, ça mérite d'être clair.
Oui, c'est clair. Donc, ce qui veut dire que le risque pour le praticien d'avoir une mauvaise publicité est nul.
Oui.
Puisque si la personne qui se soumet au test échoue, personne ne le saura jamais. Par contre, donc pourquoi ? Ça, c'est un choix, je dirais, stratégique. Il y a suffisamment de médias qui font une mauvaise publicité pour les praticiens. Fabrice Luquet, donc l'officiel de la voyance, a décidé de prendre le contre-pied de ça. Donc, mettre en lumière les gens qui ont un réel talent. Si j'ai 71 consultations, je ne les ai pas comptées, mais je vous fais confiance.
Plus de 70, j'en ai compté plus de 70.
D'accord, donc plus de 70 consultations test, ça veut dire que plus de 70 fois en, je pense, un petit peu plus d'un an, j'ai démontré l'efficacité et l'intérêt de ma prestation. Ce qui n'est pas forcément la même chose que démontrer ma capacité à lire le futur. Et il suffit, je pense, de lire attentivement les comptes rendus des consultants pour s'en persuader.